Ce soir, je veux partager avec vous un message très simple, mais avec des vérités très profondes, qui j'en suis sûr que nous serons utiles à tous. Tournons nos Bibles, Genèse chapitre 5, on va lire à partir de verset 21 jusqu'à 24, Genèse chapitre 5. On va lire à partir de verset 21 jusqu'à 24. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et on peut garder le doigt dans Genèse 5 et aussi on va tourner à Hébreux 11, le verset 5. On voit ce que la Bible parle de cet homme. En fait, la Bible ne dit pas grand-chose sur cet homme. Et on trouve quelques phrases, mais en tout, pas plus que 10 versets dans toute la Bible. Donc, Hébreux 11, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ces deux passages que nous avons vus, par ces deux passages, nous comprenons deux choses. Qu'Enoch marchait avec Dieu, et deuxièmement, il plaisait à Dieu. Enoch marchait avec Dieu, et deuxièmement, en hébreu, on a vu qu'il plaisait à Dieu. Par sa vie, il plaisait à Dieu. Mais pour moi, les deux sont, j'espère que pour nous tous, les deux sont la même chose. On ne peut pas marcher avec Dieu sans plaire à Dieu. Dans la Bible, nous ne trouvons que 5 références à cet homme, Enoch. On trouve, nous avons vu Genèse 5. Et après, dans un chronique 1-3, c'est la généalogie. Et après, on voit encore dans une généalogie de Luc 3, verset 37. Et après, nous voyons à Jude, verset 14 et 15. Et nous avons vu Hébreux. Qu'y a-t-il de si unique chez cet homme? Une chose que nous savons de la Bible, c'est qu'il n'a pas vu la mort. Il y a quelques autres choses qui sont très significatives à propos de cet homme. Enoch signifie le sens de son nom, c'est « Dieu voulait vous consacrer ». C'est qu'il marchait avec Dieu et qu'il plaisait à Dieu. Deuxièmement, nous voyons qu'Enoch est le premier prophète qui a prophétisé la seconde venue de Jésus, notre Seigneur. Le premier prophète dans la Bible, dans l'ensemble de la Bible, qui a prophétisé sur le avènement de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible concernant prophétie dans la Bible, concernant la seconde venue du Seigneur, mais Enoch a été la première personne à prophétiser sur la seconde venue de Jésus. Si vous voulez, je vais lire pour vous Jude 14, 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ce terme. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qui sont proférées contre lui, les pécheurs impies. Donc, Enoch, il a prophétisé contre un jugement. Il a prophétisé un jugement à venir, que le Seigneur, il va revenir pour juger l'impie. On peut, quand on parle d'un homme, on ne peut pas enlever cet homme de son époque. Donc, laissez-moi de vous parler de l'époque de la vie, époque de la vie de cet homme, Enoch. Nous lisons la création de la terre et tout, comment Dieu a créé l'homme dans la première partie du livre de la Genèse. Et puis quand nous arrivons au chapitre 5 de la Genèse, nous trouvons cet homme, Enoch. Beaucoup d'entre nous pensent que Enoch a vécu à une époque différente de celle d'Adam et Ève. Même moi, je pensais ainsi. Mais si nous étudions attentivement la généalogie, Enoch a vécu à une époque Enoch est né 622 ans après la création d'Adam. Adam, il était créé, il n'est pas né. Donc, après la création d'Adam, Enoch, il est né 622 ans après la création d'Adam. Et puis, Adam et Enoch ont vécu ensemble, vous savez combien d'années? Ils ont vécu ensemble. Adam, il a vécu plus de 900 ans. Donc, Adam et Enoch, ils ont vécu ensemble 308 ans. Ils ont vécu ensemble 308 ans. Ils étaient des contemporains, certainement ils se sont rencontrés, certainement Adam, il a raconté des choses par rapport à Dieu, par rapport à la création. Et donc eux, les deux, ils ont vécu au même moment. Nous pensons généralement que Adam était mort bien des années avant la naissance d'Enoch. Ce n'est pas vrai si nous faisons un calcul pour comprendre cette vérité. Une chose que nous devrions voir ici, c'est que Enoch a prophétisé au sujet de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ au tout début, c'est-à-dire lorsque le premier homme, Adam, était encore en vie. Adam, il était toujours vivant quand Enoch a prophétisé par rapport à la seconde venue de Jésus-Christ, par rapport au jugement. C'est intéressant et merveilleux, n'est-ce pas? Et Enoch a été enlevé vivant par Dieu 69 ans avant la naissance de Noé. Donc Noé, c'est le petit-fils d'Enoch. Vous connaissez le nom de fils d'Enoch? Methuselah. Donc, lui, il a vécu 969 ans. Et si vous voyez la père, ce n'est pas Lamech. Son père, il a vécu environ 960 ans, 62 ans. Mais Enoch, il a vécu 365 ans. Donc, nous voyons dans la Bible comment étaient les gens à l'époque de Noé, car Enoch a été enlevé par Dieu seulement 69 ans avant la naissance de Noé. Donc, si Dieu il a détruit la terre par le déluge, juste après Enoch, on peut imaginer comment les gens, ils étaient complètement sans Dieu. Ils ont oublié Dieu, Dieu créateur, ils sont dans le péché. Ils étaient dans le péché. Et Enoch, il a vécu à cette époque quand tout le monde était en train de marcher dans une autre voie, égaré. Mais Enoch, il marchait. Ce que la parole nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Et nous pouvons, pour avoir cette situation, c'est Genèse 6, 3, 6, je vais lire pour vous. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Donc c'était une triste époque de Enoch. Quand Enoch, il a vécu sur la terre et tout le monde était dans la méchanceté et contre l'Éternel. Voici un homme qui a marché avec Dieu alors que le monde entier était en décalage avec Dieu. Lorsque le monde autour marchait dans la voie impie et contre Dieu, Enoch marcha avec Dieu. Voilà un homme qui a montré au monde entier qu'il est possible de marcher avec Dieu, même en dehors du jardin d'Éden. Et de notre époque, souvent on dit que c'est très difficile à marcher avec Dieu. C'est très difficile à être un chrétien. C'est très difficile à garder sa foi. Mais pensons à Enoch, il était dans une époque terrible. J'en pense que peut-être pareil ou même pire. Adam et Ève ont eu le merveilleux privilège de marcher avec Dieu, mais ils n'ont pas fait. Adam et Ève, ils étaient très proches de Dieu. Dieu, il marchait parmi eux, mais ils ont perdu ce privilège. Quelque chose que Adam ne pouvait pas le faire, Enoch pouvait le faire. Et ce qui rend la vie d'Enoch et son histoire très pertinent aujourd'hui pour nous. Et c'est même vrai pour des chrétiens d'aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont censés marcher avec Dieu dans un monde où ils vivent, qui est complètement en décalage avec Dieu, et qui marche plutôt contre Dieu. Les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Même les gens qui se disent chrétiens ne vivent plus l'évangile. Ils sont devenus libéraux et ne croient pas en l'efficacité du sang de Christ. Nous vivons dans un monde où nous entendons souvent des gens dire qu'il est impossible de marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait. Et souvent on dit que à cette époque, peut-être c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Nous pensons que dans un pays comme la France, il n'est pas possible de marcher avec Dieu. N'imaginez pas qu'Enoch est allé dans le Himalaya ou sur une île lointaine pour s'asseoir comme un sadhu ou un moine pour vivre une vie retirée. Mais Enoch, il était marié, il avait une femme, il avait des filles et des fils. Donc il avait une famille, tout à fait comme la nôtre, normal, un homme normal. Et souvent les gens dans les autres religions, ils prêchent qu'il faut que se retirer du monde pour être avec Dieu. Est-ce que c'est la marche avec Dieu? Quand le monde marche avec Dieu, il nous est facile de marcher. Quand tout le monde marche avec Dieu, c'est facile pour nous pour marcher avec Dieu. Quand nous voyons que toute l'Église marche avec Dieu, nous aussi on pourrait être encouragés de marcher avec Dieu. Mais quand nous voyons que le peuple, même le peuple de Dieu, il ne marche pas avec Dieu, ceux qui disent un enfant de Dieu, il ne marche pas avec Dieu, c'est plutôt décourageant. Quand nous disons Enoch marchait avec Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Enoch se promenait tous les jours, le matin et le soir. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? C'est une promenade dans l'après-midi, dans l'ombre, dans le parc. Est-ce que c'était ça? Bien sûr que non. Marcher avec Dieu, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas le dimanche matin, ce n'est pas le mardi soir, Ce n'est pas une certaine réunion, on marche avec Dieu. Mais chaque instant de notre vie, nous devrions marcher et chercher à plaire à Dieu. Et marcher avec Dieu, nous avons plusieurs manières, plusieurs raisons pour marcher avec Dieu. En Éphésiens 4, 1, l'apôtre Paul, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Vocation, c'est l'appel. Et nous devrions marcher d'une manière digne de la vocation, de notre vocation. Et encore en Colossiens 1, 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et ce que exactement Enoch il a fait, n'est-ce pas? Entièrement agréable. Est-ce que ma vie est entièrement agréable à Dieu? Dans ma marche avec le Seigneur, est-ce que ma vie, elle est entièrement agréable? Et l'apôtre Jean, dans son premier épître, chapitre 2, il dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc, marcher avec Dieu, être en pas avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher comme lui, il marche. Mais je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé de marcher à deux. Hein? Mais si l'autre personne, il traîne, on ne peut pas avoir une marche agréable. Si nous traînons derrière, mais ça ne peut pas être une marche agréable. Vous savez, en Amos 3:3, il dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Deux hommes, ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas un accord commun, un intérêt commun. On ne peut pas marcher ainsi. Donc, la Bible nous exhorte à marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Si nous devrions marcher avec Dieu, nous devrions marcher dans la lumière comme lui, il est dans la lumière. On ne peut pas marcher dans la ténèbre et dire, je marche avec le Seigneur. On devrait marcher dans la lumière. Donc, qu'est-ce que c'est cette marche? C'est une intimité avec Dieu. Comme Enoch, il marchait avec Dieu. Il avait une intimité, il connaissait Dieu, et Dieu connaissait Enoch. Sa vie, il n'y avait rien de caché. Il y avait une sainte communion entre Dieu et Enoch. Et toutes nos activités, on peut souvent penser qu'on peut vivre dans une bulle d'illusion qu'on marche avec Dieu. On peut dire que j'ai fait plein de choses. Je prie tous les jours, je prie plusieurs fois par jour, je lis la Bible plusieurs fois par jour. Je peux assister à toutes les réunions de l'Église, je peux être dans le culte, je peux être dans le choral, je peux prêcher, je peux faire beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses. Et je peux rester dans une illusion, dans une bulle illusionnaire que je suis en train de marcher avec Dieu. Et d'accord, mais toutes nos activités, si ça provient de notre intimité avec Dieu, c'est agréable pour Dieu. Jésus, en Apocalypse, il a dit, Apocalypse chapitre 2, vous pouvez prendre, Apocalypse chapitre 2, on va lire les premiers quatre versets, les quatre premiers versets. Apocalypse 2. Et Jésus l'a reproché cette église. Donc Apocalypse 2, 1 à 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Beaucoup de bonnes qualités, n'est-ce pas? Beaucoup de bonnes qualités. Et le verset 4, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Et donc, il n'a pas marché 2 kilomètres, 3 kilomètres, mais il a marché tous les jours. Il a marché tous les jours. Et son premier amour, jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Et le verset 5, souviens-toi donc, d'où tu y es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Donc, quand nous voyons comment Enoch a marché avec Dieu, mais vous voyez quand ce qui est dit de Enoch dans la Genèse 5, et quand est-ce qu'il a commencé à marcher avec Dieu? Enoch, âgé de, nous sommes à Genèse 5, verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Mais ça veut dire que peut-être il n'a pas marché avec Dieu jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais il y avait un commencement. Il commence à marcher avec Dieu à l'âge de 65 ans. Et pour nous, si nous devrions poser cette question à nous-mêmes, quand est-ce que je commence à marcher avec Dieu? Quand est-ce que si je n'ai pas commencé encore, mais il y a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. On peut commencer à marcher avec Dieu. Donc, il a marché combien d'années? Il marcha avec Dieu 300 ans. C'est énorme, n'est-ce pas? Marcher, mais souvent, nous passons au-dessus. On dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Mais on oublie qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et souvent, on pense qu'on peut combler avec nos activités, avec tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. On pense qu'on marche avec Dieu. Dieu, il voit pas nos activités. Il voit l'attitude de notre cœur. Quelle est notre attitude envers Dieu? Est-ce que nous sommes en train de marcher avec lui? Est-ce que nous sommes en pleine communion avec lui? Ou nous avons notre vie à côté et de temps en temps, nous venons rencontrer Dieu pour dire que, voilà, je suis quand même ton enfant. N'oublie pas. Mais comment nous marchons? Mais Dieu, il est en train de regarder notre attitude. Comment est-ce que ça nous arrive de tout déclarer, tout dire à notre Dieu? On peut dire que nous sommes en communion avec le Seigneur. Mais est-ce que ça nous arrive à tout dire comme... Quand deux amis, ils marchent, quand deux frères, ils marchent, deux sœurs, ils marchent, je pense qu'ils peuvent partager beaucoup de choses. Tout ce qu'ils ont envie de parler, ils vont certainement parler. Est-ce que, comment est notre communion avec Dieu dans notre marche? Marcher avec Dieu signifie que nous vivons dans l'obéissance à sa parole, avec une communion intime avec lui. Non pas de temps en temps, mais chaque jour de notre vie. C'est la question de notre dépendance à l'égard de lui ou d'une vie indépendante sans Dieu. Et nous avons une tendance d'être indépendants. Ça a commencé avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Quand Satan il a tenté, il a dit que voilà, vous n'êtes pas obligé de vivre, obéir au Seigneur. Vous pouvez être des dieux, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui est en nous. De temps en temps, on veut être indépendant complètement. Comme le fils prodigue qui a quitté le père pour vivre sa vie indépendamment de son père. Et nous tentons, nous essayons de temps en temps. Et est-ce que nous consultons à Dieu pour tous les détails de notre vie où nous voudrions marcher dans notre indépendance? Est-ce que ça nous arrive à tout dire, de consulter, de poser des questions à notre Seigneur? La parole nous dit, nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est nous. Nous étions tous égarés comme des brebis. Et Dieu s'intéresse même à ces moindres détails de notre vie. Mais parfois, nous oublions. Ah non, je ne peux pas dire de petites choses. Je ne veux pas charger Dieu avec les petits détails qui m'embêtent dans la vie. Mais Dieu dit que j'ai compté le nombre de cheveux sur sa tête. Et Dieu, il voit le petit moineau qui tombe. Il connaît les tout petits détails de notre vie, mais parfois, on peut utiliser ce mot « communion avec Dieu ». Mais comment nous avons notre communion avec Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons? Et parfois, nous, on a envie de faire certaines choses et on fait ce qu'on a envie de faire et pensant que Dieu va nous pardonner. Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons? Ce qui est triste dans la vie de la plupart des chrétiens, ce que nous cherchons Dieu afin d'obtenir quelque chose à lui. Mais quand nous cherchons la face de Dieu, on veut obtenir quelque chose de lui. Et même dans nos prières, soit prières individuelles ou dans la famille, ou même dans l'église, quand nous prions, on veut quelque chose. Mais souvent notre prière c'est « donne-moi, protège-moi, donne-moi ». Mais pourquoi nous prions comme ça? Vous savez, la prière des disciples ou la prière du Seigneur, hein, à Matthieu 6. Et il y a combien de requêtes dans cette prière? Il y en a 6. Il y a 6 requêtes. Et si vous regardez bien, dans les 6 requêtes, il y a un seul qui parle de choses matérielles. Donne-nous nos pains quotidiens. Donne-nous nos pains quotidiens. Et les autres, c'est nous cherchons pour notre vie spirituelle, pour être en communion avec Dieu, que notre communion ne devrait pas être rompue. Et la parole nous dit, en Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Et comment est notre communion avec Dieu? Comment est notre communion avec Dieu? Donc, si vous voyez bien, cet homme, il n'a pas vécu très longtemps. Il a vécu 365 ans. Par rapport à notre vie, c'est beaucoup, hein, mais peut-être 8 fois plus ou 10 fois plus, je ne sais pas. Mais par rapport à des gens qui sont vécus à son époque, son père, il a vécu 962 ans. Son fils, c'était le qui a vécu le plus longtemps. Et les gens, ils sont vécus de centaines d'années. Mais Enoch, il a marché avec Dieu 365 ans. Il commence à marcher avec Dieu à l'âge de 65 ans, donc 300 ans, il a marché avec Dieu, et sa vie est terminée. Mais heureusement, pas avec la mort, mais le Seigneur, il a pris. Il n'est pas rencontré la mort. Donc, ce n'est pas important combien longtemps nous allons vivre. C'est très important comment nous vivons, comment nous marchons avec le Seigneur. Mais cet homme, quand tout était autrement, mais lui, il était fidèle. Il a trouvé son Dieu. Il a marché avec son Dieu pendant toute sa vie. La Bible, elle ne parle pas beaucoup de cet homme. Elle ne dit pas grand-chose. Mais ce qu'elle dit, ça nous suffit. Enoch marchait avec Dieu. Il a tout fait pour plaire à Dieu. Que notre communion avec notre Seigneur soit notre plus grande priorité. Et celui qui est en communion avec Dieu ne va pas avoir peur pour rencontrer la vie, même dans le monde. Car il sait que avec qui il marche. Imaginez si vous marchez avec le président de la République tous les matins. Il y avait une époque, un président, il faisait son jogging. Et si vous avez l'habitude de marcher avec un président du pays, mais c'est quelque chose, hein? Mais si nous marchons avec Dieu, pourquoi nous devrions craindre autre chose? Donc, nous devrions penser à notre marche avec le Seigneur, avec notre Seigneur, et que ce soit intime, que c'est de cette communion intime avec notre Seigneur, nous devrions commencer à réfléchir pour faire autre chose pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.